Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous continuons la contemplation de la Passion, et je vous l'ai dit, cette contemplation ne saurait se limiter à considérer les souffrances physiques et les souffrances extérieures de notre Seigneur, mais nous devons pénétrer dans son âme. Nous devons voir quelle a été son attitude envers le Père, car il est évident que notre Seigneur nous prend avec lui, il nous assimile à lui pour nous mener vers le Père. Et il est à la fois un modèle et en même temps il nous donne les grâces et tout ce qu'il faut pour le suivre et pour lui ressembler. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le caractère volontaire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Caractère volontaire que saint Thomas étudie, il pose une question: le Christ a-t-il voulu mourir ou sont-ce les Romains et qu'ils l'ont mis à mort malgré lui? Et il pose une deuxième question: Dieu le Père est-il l'auteur de la mort du Christ, c'est-à-dire a-t-il livré son Fils à la mort? Les paroles de l'Écriture sainte qui résument, qui appuient tout ce que nous allons dire, tout ce que saint Thomas dit, c'est tout d'abord saint Jean, chapitre 10. J'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Et saint Jean, au chapitre 14, nous rapporte les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis comme mon Père me l'a ordonné, levez-vous, sortons d'ici. Et notre Seigneur va au jardin de Gethsémani. Ce qui résume les considérations de saint Thomas. Trois points. Premièrement, le Christ s'est offert librement. Deuxièmement, par obéissance. Et troisièmement, par amour. Et cet amour va unir la liberté du Christ à l'obéissance en mettant la volonté de notre Seigneur en plein accord avec la volonté de son Père, en le soumettant totalement à la sagesse divine. Et cet amour, comme tout amour véritable, était évidemment exigeant. Saint Thomas commence par le premier point. Jésus-Christ s'est-il offert soi-même? Autrement dit, s'est-il offert librement? Donc nous laissons de côté la question de savoir qu'évidemment les Romains, les païens, l'ont mis à mort. La question n'est pas là, car il est évident que le Christ pouvait se soustraire à la mort et qu'il ne l'a pas fait. Tout d'abord, il pouvait se soustraire en arrêtant ses ennemis. On le voit très nettement au moment de l'arrestation. « Qui cherchez-vous ? » demande Jésus-Christ. « Jésus de Nazareth » répondent ses ennemis. Et Jésus, avec beaucoup d'autorité, leur répond « C'est moi. » Et en entendant cela, ils tombent tous à la renverse. Notre Seigneur a permis cela pour montrer qu'il était pleinement libre. Une autre fois également, parce que l'opposition avec les Juifs s'est fait sentir très très tôt. Très tôt, les Juifs ont vu que notre Seigneur n'allait pas dans le sens de leur désir temporel d'un royaume humain et terrestre. Et lorsqu'il était chez lui en Galilée, ils ont voulu le mettre à mort. Et ils l'ont conduit en haut, ils ont voulu le conduire en haut d'une montagne là où leur ville était construite, de manière à le précipiter en bas. Et notre Seigneur, tout simplement, passa au milieu d'eux. Et puis les Juifs n'ont rien pu faire. Donc notre Seigneur aurait pu empêcher ses bourreaux de le frapper. Il aurait pu également écarter les coups et même empêcher que son corps puisse souffrir. Son âme était l'instrument de sa divinité. Il aurait très bien pu, comme il faisait des miracles par exemple, faire un miracle sur son corps et empêcher son corps de pouvoir souffrir et surtout de pouvoir mourir. On voit très nettement le caractère volontaire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et saint Thomas d'Aquin insiste beaucoup sur ce point, avec le grand cri de notre Seigneur au moment où il expire. Normalement, quelqu'un qui expire n'a plus de force et ne peut pas crier. Il est vrai que les recherches récentes en médecine, notamment celles du professeur Barbet, montrent que notre Seigneur est mort d'une crise cardiaque, et c'est la raison pour laquelle il est mort si rapidement, crise cardiaque provoquée en grande partie par la flagellation. Mais même là, même si quelqu'un dans une crise cardiaque crie de douleur, le cri de notre Seigneur était très particulier, puisque le centurion qui présidait à l'exécution, en entendant ce cri, a compris que cet homme n'était pas mort naturellement, qu'il avait donné sa vie et qu'on ne la lui avait pas prise, et c'est ainsi qu'il se frappe la poitrine, persuadé d'avoir mis à mort le juste. Donc notre Seigneur est mort librement. La grande différence entre le Christ et les martyrs, comme le Christ et les martyrs ont consenti volontairement à la mort, en acceptant la volonté de Dieu. Mais ils ne possédaient aucune puissance de s'y soustraire, ce qui n'est pas le cas du Christ. Et on dit bien que les martyrs ont souffert volontairement, ils se sont livrés à la mort en ce sens qu'ils ont préféré la mort plutôt que l'apostasie, mais enfin ils n'auraient pas pu y échapper autrement que par l'apostasie. Notre Seigneur, lui, avait toute puissance d'échapper à sa mort s'il le voulait. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans les paroles que je vous ai citées au début. « J'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. » Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, fait 5 considérations. Jésus souffre, Jésus veut souffrir, Jésus cache sa divinité pour mieux souffrir, c'est pour moi que Jésus souffre, et cinquièmement, que ferai-je pour lui? Et je voudrais insister sur le troisième point, Jésus cache sa divinité pour mieux souffrir, il l'a fait depuis le début de l'incarnation, je vous l'ai expliqué dans un précédent sermon, notre Seigneur a empêché sa divinité de glorifier son corps de manière à permettre à son corps de souffrir. Et ça, il l'a fait depuis le début. La deuxième question de saint Thomas, le Christ s'est-il livré à la passion par obéissance? Et saint Thomas a dit, il était de la plus haute convenance que le Christ souffrit par obéissance. Premièrement, pour la justification des hommes. Deuxièmement, pour la réconciliation de Dieu avec les hommes, et troisièmement, pour assurer une victoire triomphale sur la mort et ses ennemis. Tout d'abord, pour justifier les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes s'étaient écartés de Dieu par désobéissance, et il fallait les ramener sous l'obéissance, dans l'obéissance à Dieu. Et saint Paul aux Romains, chapitre 5, « De même que par la désobéissance d'un seul, Adam, beaucoup ont été constitués pécheurs, c'est le péché originel qui nous détourne de Dieu, de même aussi, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup sont constitués justes. Il est évident que, pour être constitué juste, il faut s'associer à cette obéissance de Jésus-Christ à son Père. Ça ne se fait pas tout seul. Le péché de l'homme, c'est la désobéissance à Dieu, à sa volonté et à sa sagesse. Le seul moyen de réparer, c'est de revenir à l'obéissance. Et notre Seigneur obéit à son Père, il se soumet et il ramène à la soumission et à l'obéissance tous ceux qui acceptent d'obéir avec lui et de se soumettre avec lui. La deuxième raison, c'est la réconciliation de Dieu, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est l'Écriture sainte qui le dit, livre de la sagesse. Pourquoi cela? Parce qu'il faut voir le sacrifice d'abord comme une consécration de nos volontés à la sage volonté divine. On voit d'habitude dans le sacrifice le caractère pénible. En réalité, le sacrifice n'est pénible qu'à cause du péché. Parce que ceux qui aiment Dieu l'aiment sans difficulté. Le péché originel rend aujourd'hui très souvent l'amour exigeant et difficile. Il est toujours exigeant, mais le rend difficile. Les conditions à la suite du péché originel rendent notre obéissance quelquefois pénible et le sacrifice pénible. Mais la réalité profonde du sacrifice, c'est de nous consacrer à Dieu, de nous faire entrer dans le caractère sacré de la sagesse et de la volonté divine. Et notre Seigneur, en obéissant, consacre sa volonté à Dieu, la reconsacre, si je puis dire, parce qu'elle l'était depuis l'origine. Et nous, en suivant notre Seigneur Jésus-Christ et en obéissant avec lui à Dieu le Père, nous rentrons dans cette consécration. Nous verrons au sermon prochain qu'il était nécessaire que le Christ nous ouvre d'abord la voie et nous en donne les moyens, parce que de nous-mêmes, nous étions tellement détournés de Dieu que nous n'avions plus la possibilité de nous retourner vers lui. Nous étions tellement désobéissants que, comme des sales enfants déterminés par le péché, profondément ancrés dans le péché, notre détournement de Dieu était si violent que nous n'avions plus la possibilité de retourner vers lui. Mais cela, nous le verrons la prochaine fois. Ce que nous voyons ici, c'est que Jésus-Christ, justement, nous retourne vers Dieu par obéissance. Et la troisième raison, c'est que cette obéissance est un triomphe sur la mort et sur l'auteur de la mort, c'est-à-dire sur Satan, car, dit saint Thomas, un soldat ne peut vaincre que s'il obéit à son chef. Et pourquoi cela est une victoire sur le démon? Parce que le démon a désobéi. Et parce que le démon est vaincu par l'humilité de notre Seigneur dans l'obéissance. Il est vaincu par quelqu'un qui se soumet, lui qui n'a pas voulu se soumettre. Et il nous reste une troisième question posée par saint Thomas. Est-ce le Père qui a livré le Christ à la passion? Et saint Thomas répond oui. Ce n'est pas saint Thomas d'ailleurs, c'est l'Écriture sainte, c'est l'enseignement de l'Église, c'est la révélation. Il serait impossible de déclarer que le Père n'a pas voulu la mort de notre Seigneur pour notre rédemption. Tout d'abord, selon sa volonté éternelle, il a établi par avance la passion du Christ qui est ordonnée à la libération du genre humain. Le Seigneur a fait retomber sur lui, le Seigneur, c'est-à-dire Dieu le Père, a fait retomber sur lui, sur le Christ, l'iniquité de nous tous. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. C'est l'enseignement d'Isaïe le prophète. Dieu a établi la passion comme le moyen de la rédemption. Deuxièmement, il a inspiré à Jésus-Christ la volonté de souffrir pour nous en lui infusant la charité. Voilà pourquoi il s'est livré en sacrifice parce qu'il l'a voulu, Jésus-Christ. Ça, c'est certainement le point capital. Mais je n'ai pas voulu y arriver depuis le début, parce qu'aujourd'hui, on a une fausse notion de la charité. Il est capital de rappeler que notre Seigneur a tout fait dans la charité. Mais il faut voir ce qu'est cette charité. Cette charité de notre Seigneur, c'est l'amour de son Père qui met sa volonté en plein accord avec la volonté divine. Le Fils et le Père ne font qu'un, c'est une évidence. Et Jésus, incarné sur la terre, ne fait qu'un avec Dieu le Père. Vous vous rappelez que nous avons étudié cela lorsque nous avons vu la volonté de notre Seigneur, qu'il était très important de rappeler que le Christ avait une volonté humaine, sinon il n'aurait pas été un homme complet. Et de rappeler que c'était important parce que justement cette volonté humaine de notre Seigneur, nourrie par la charité, c'est-à-dire par l'amour de Dieu, est en plein accord, sans aucune dissension, avec la volonté divine, et donc avec Dieu le Père. Cette charité, vous voyez, qui est l'amour, opère l'union de la volonté de Dieu le Père avec la liberté du Christ. Et c'est très important parce que c'est ainsi que le Christ restaure notre liberté. Normalement, et ça tous les auteurs étudient cela un petit peu longuement, la question de la liberté, qui est une question si moderne. Aujourd'hui, l'homme veut être libre et il veut croire que pour être libre, il faut ne pas obéir. Et nous savons bien que Dieu commande, et nous avons quelquefois l'impression que si nous obéissons, alors nous perdons notre liberté. Mais qu'est-ce que la liberté ? La liberté, c'est d'arriver à la plénitude de ce qui nous est destiné. La liberté, c'est d'arriver à la perfection de ce que nous devons être. Cette perfection nous a été déterminée par Dieu. De nous-mêmes, nous ne pourrions rien. Cette perfection, elle va être à nous, mais elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Dieu nous la donne, mais elle ne vient pas de nous, elle vient de lui. Et la liberté consiste à vouloir cette perfection. Et par conséquent, il n'y a aucune opposition entre la liberté et l'obéissance. Au contraire, le seul moyen d'être libre, c'est-à-dire de réussir notre liberté, c'est-à-dire d'obtenir cette perfection que la liberté cherche, le seul moyen, c'est d'obéir à la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu nous rend pleinement libres parce qu'elle nous libère de tout ce qui nous entraînerait au mal et a fortiori au péché. Et donc, l'amour qui unit les deux volontés, la charité qui unit notre volonté à la volonté divine, cet amour perfectionne la liberté en lui donnant la réussite complète, c'est-à-dire la perfection que nous voulons, et en même temps, elle rend libre notre obéissance. Eh bien, c'est ce qui se passe en notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est pourquoi j'ai voulu faire un sermon tout entier, et c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin a consacré une question tout entière de plusieurs articles à ce sujet, pour nous montrer, d'une part, la liberté du Christ qui s'offre parce qu'il le veut. Il a le pouvoir de donner sa vie ou de la reprendre. La preuve, il ressuscitera. Il le fait par obéissance de son Père, à son Père. Et cette union de la liberté avec l'obéissance vient de la charité qui, évidemment, habite notre Seigneur Jésus-Christ nécessairement et à la perfection, puisqu'il est le Fils de Dieu. Voilà ce que nous devons chercher durant le carême. Nous devons, durant ce carême, non pas seulement lutter contre le péché, mais arriver à la soumission libre à la sainte volonté de Dieu. Et nous écartons le péché justement parce que le péché s'oppose à cette vraie liberté, s'oppose à la véritable obéissance et finalement détruit tout. Demandez à la Sainte Vierge, qui a répondu si librement aux exigences de Dieu lorsqu'elle a accepté de devenir la mère du Sauveur, « Fiat, qu'il soit fait selon ta parole, je ne suis qu'une servante. » Et elle envisageait déjà, parce qu'elle le savait déjà dans la foi, parce qu'elle avait lu l'Écriture, que ce fiat la mettrait au pied de la croix. Et elle a uni sa propre liberté, au jour de l'Annonciation, à la sage exigence divine. Cela l'a menée jusqu'à la croix, mais de la croix, cela l'a fait reine de tous les anges et de tous les saints. Et maintenant, c'est elle qui nourrit tout l'idéal et qui nourrit tout l'enthousiasme de tous les chrétiens, même dans les difficultés, en pensant à la Sainte Vierge, ils courent vers Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.